Europe Matin, Omblin Roche, Julien Pierce.
Bonjour à toutes, bonjour à tous.
Et bienvenue sur Europe 1, nous sommes le mardi 7 décembre.
Bon, Jean-Claude, tu te décides, ils prennent quoi tes enfants pour l'arbre de Noël? Allez!
Qu'est-ce que te disent mes gosses, ils sont pourris gâtés. En plus, il n'y a rien qui les intéresse dans les us.
Oh, t'es dur. Bah, attends, je suis pas d'accord, il y a des trucs vachement bien. Tiens, je vais cocher mon nom pour le circuit 24.
L'arbre de Noël avec les cadeaux distribués aux enfants des salariés. Le circuit 24, hein, par exemple, c'est un circuit avec des petites voitures, ou pas. Hein. C'est une grande tradition en entreprise. Depuis longtemps, cet épisode de Caméra Café peut en témoigner. Sauf que le Covid et la cinquième vague de contamination sont en train de jouer les troubles fêtes. Les arbres de Noël, les pots au bureau, les cocktails, les séminaires, les annulations se multiplient.
Et les traiteurs et les restaurateurs se retrouvent une nouvelle fois impactés.
Oui, il faut dire que les fêtes représentent la période la plus importante pour leur activité. Encore récemment, les carnets de commandes étaient en train de se remplir. Aujourd'hui, les entreprises font machine arrière. On sera à 6h moins le quart avec le président des traiteurs de France.
Traiteurs dont a parlé hier soir Jean Castex, le Premier ministre qui a annoncé une nouvelle série de mesures justement pour contrer cette cinquième vague. Protocole sanitaire renforcé à l'école, fermeture des boîtes de nuit pour 4 semaines. Toutes les infos à suivre dans le journal.
Et puis dans l'actualité aujourd'hui, un échange très attendu.
Échange en visioconférence entre Joe Biden et Vladimir Poutine. Au menu des discussions, l'Ukraine et ses quelques 100 000 soldats russes massés à sa frontière. Ajoutez à cela les chars d'assaut, les avions de chasse et vous avez depuis quelques jours tous les ingrédients pour une invasion imminente aux portes de l'Europe. C'est en tout cas la crainte de Washington et de Kiev où l'on assure respectivement que toute agression se paiera chèrement. À quoi joue Vladimir Poutine? Quel est son objectif? On posera ces questions à notre invité à 6h10, le géopolitologue et spécialiste de la Russie, Cyril Brett. Et puis, on terminera en musique comme chaque matin en Blin avec votre partition.
Un artiste que l'on connaît tous grâce à une chanson.
Say it ain't so, Joe, please. Say it ain't so. That's not what I wanna hear, Joe. And I got a right to know.
Say it ain't so, Joe de Murray Head. Il est en concert en France et le héros de la partition à 6h20.
Voilà donc pour une partie du programme. Bonjour Anissa Haddadi.
Bonjour Julien, bonjour Omblin.
Bonjour.
La semaine hivernale, malheureusement, se poursuit.
Bah oui, on est parti quand même sur une dynamique. Alors, il faut savoir qu'il va se passer plein de choses cette semaine. Hein. Nous aurons de fortes chutes de neige en montagne, des risques d'inondations et de crues très importants dans le sud-ouest. Et puis, je vous en parlais déjà hier, de forts coups de vent. Eh bien, ça y est, c'est le vent qui est là aujourd'hui. Alors, ça souffle sur toutes les côtes situées entre les Hauts-de-France et la Vendée. Là, on a vraiment des grosses rafales de vent. On a des coefficients de marée, soyez très prudents, des coefficients de marée qui sont forts, hein, jusqu'à 90. Attention également entre la Gironde et le Pays Basque, où là, on a un risque de vague submersion. Alors en fait, ce gros coup de vent, c'est la conséquence d'une tempête qui sévit actuellement en Irlande et qui est considérée comme une bombe météorologique. Donc nous, voilà, on a les conséquences de cette tempête et bientôt les fortes pluies arrivent. Alors dans le ciel, ce matin, on a un temps plutôt calme hein, sur l'ensemble du pays. La perturbation d'hier est en train de s'évacuer par l'est. Donc ça veut dire que ce matin, entre l'Alsace et les Alpes du Nord, on a quelques petites averses qui traînent. On a des petites chutes de neige à 500 mètres d'altitude. Et puis cet après-midi, une nouvelle perturbation, parce qu'elles vont s'enchaîner comme ça hein, toute la semaine. Nouvelle perturbation qui arrive par l'ouest. Donc cet après-midi, vous coupez la France en deux. Toute la moitié est sous la pluie, avec parfois même des pluies fortes. Moins 3 en Avignon, moins 2 à Gap. 6 degrés à Bordeaux, 3 à Paris et 9 à La Rochelle ce matin.
Merci Anissa Haddadi. Bon réveil à tous à l'écoute d'Europe 1. Il est 5h. Tour de vis mesuré de l'exécutif pour freiner l'épidémie de Covid, incitation au télétravail, fermeture des discothèques pour 4 semaines et protocole sanitaire encore une fois renforcé dans les écoles. Les 5-11 ans pourraient recevoir leur dose de vaccin avant la fin de l'année. Explication au début de ce journal. Après Marseille et les Hauts-de-France, Emmanuel Macron poursuit son tour du pays, direction le Cher et l'Allier pour 48 heures avec une escale à Vichy, lourde de sens. Analyse à suivre. Et puis, dernière journée des phases de groupe de la Ligue des Champions. Paris, déjà qualifié, reçoit Bruges. Ce soir, match pour du beurre, même si l'entraîneur Mauricio Pochettino est attendu au tournant.
Europe Matin, Omblin Roche et Julien Pierce.
Et le premier journal de ce mardi 7 décembre vous est présenté par Alban Leprince. Bonjour Alban.
Bonjour à tous. L'heure n'est pas à des mesures de couvre-feu ou de confinement, mais l'exécutif serre un peu la vis avec ce qu'il appelle des mesures de vigilance pour sauver les fêtes de fin d'année face à une épidémie de Covid qui s'aggrave. 25 cas du variant Omicron sont d'ailleurs identifiés en France.
Jean Castex, le Premier ministre, a donc annoncé quelques changements hier soir.
Oui, hein, comme la fermeture à compter de vendredi et pour 4 semaines des discothèques, mais mais aussi la vaccination sans rendez-vous pour tous les plus de 65 ans et pour les plus jeunes, les enfants. Céline Géraud, ça va encore bouger dans les écoles avec un renforcement du protocole sanitaire.
Oui, dès jeudi, l'école primaire va donc passer au niveau 3 du protocole sanitaire, ce qui veut dire masque obligatoire en intérieur et en extérieur. Toutes les activités sportives en intérieur se feront là aussi désormais masquées. Et puis dès lundi, pour limiter les brassages à la cantine, les enfants seront regroupés par classe au moment des repas. Deuxième annonce très attendue, la vaccination des 5-11 ans. Ce sera possible dès le 15 décembre pour les 360 000 enfants les plus fragiles avec des pathologies à risque. Et pour les autres, eh bien le Premier ministre Jean Castex a donné le calendrier.
Sous réserve des avis et des instances scientifiques et du Conseil national d'éthique, nous projetons de pouvoir l'ouvrir à tous les enfants sur la base, évidemment, du volontariat, si possible, d'ici la fin de l'année.
Plus précisément, cela pourrait commencer dès le 20 décembre en centre de vaccination et à partir du 27 décembre en médecine de ville. Cette campagne de vaccination concerne 6 millions de jeunes enfants.
Céline Géraud, chef du service Société d'Europe 1.
Autre recommandation de Jean Castex, cette fois-ci à destination des employeurs, c'est le recours au télétravail.
2 à 3 jours par semaine quand c'est possible. Le Premier ministre promet de faire le point dans une semaine. Si l'incitation ne fonctionne pas, il faudra passer par l'obligation. Et pour Benoît Serre, vice-président de l'Association nationale des DRH, c'est la solution la moins pire.
Ce qui est bien, c'est que le gouvernement commence par faire confiance aux entreprises. C'est-à-dire qu'il ne part pas direct sur l'obligation. On sait que les entreprises qui ont des accords ou des chartes sont plutôt à 3 jours ou 2 jours. Donc ça devrait aller. Mais la question, c'est est-ce que celles qui n'en ont pas vont emboîter le pas et éviter que le gouvernement nous mette en place le télétravail, principe qu'on redoute tous. Surtout sur un plan collectif, parce qu'il faut bien reconnaître que depuis le mois de septembre-octobre, on avait retrouvé une dynamique d'entreprise. Donc notre grande crainte et la crainte que les salariés ont, c'est que cette dynamique se brise d'une certaine manière. Mais rien ne serait pire qu'une obligation qui tomberait parce que ça créerait des conditions de télétravail moins bien préparées, alors que si on s'y met là pendant 10 jours pour celles qui n'en ont pas encore, ça permet de le préparer au mieux des intérêts et des salariés et des entreprises.
Des propos recueillis par Élise Dangean.
Et face à cette cinquième vague du Covid qui sévit dans toute l'Europe, les autorités américaines ont prié hier leurs ressortissants d'éviter de se rendre dans une dizaine de pays, dont la France et le Portugal.
Un coup dur pour les salariés du secteur de l'automobile. La politique d'électrification des véhicules pourrait détruire jusqu'à 500 000 emplois d'ici 2040 dans l'Union européenne. Résultat d'une étude de l'Association européenne des fournisseurs automobiles publiée hier. Mais la perte nette pourrait se limité à 275 000 postes avec le recrutement dans les logiciels, la fabrication et l'assemblage des batteries.
De Vierzon à Bourges, en passant par Moulins et Vichy, nouvel épisode à partir d'aujourd'hui du Tour de France des territoires qu'a entamé Emmanuel Macron.
À l'image de Marseille en septembre et des Hauts-de-France il y a 2 semaines, rendez-vous fixé dans le Cher et l'Allier pour 48 heures. 48 heures pour parler notamment des sujets du quotidien, ce qui intéresse les Français dans la vie de tous les jours, mais aussi des enjeux, des petite et moyenne ville, un déplacement Jacques Serret dont l'objectif, on peut le dire, est de parler à la France rurale.
Oui, Emmanuel Macron veut aller sur le terrain, montrer qu'il est au contact des Français. Et ce matin, à Vierzon, 25 000 habitants, le président a prévu plusieurs heures de déambulation dans le centre-ville à la rencontre des commerçants, des résidents de cette ville moyenne. Vierzon, puis Bourges, 65 000 habitants, où le chef de l'État doit échanger avec des auxiliaires de vie sociale. Enfin, Emmanuel Macron, qui n'a jamais été élu local, participera ce soir au conseil municipal de Château-Meillan, moins de 2 000 habitants. Il veut entendre quelles sont les préoccupations des Français, assure un de ses conseillers. Écouter, mais aussi envoyer des messages. Demain, le chef de l'État se rendra à Vichy. Une visite qui ne doit rien au hasard, alors qu'Éric Zemmour estime que le maréchal Pétain a protégé les Juifs français. L'Élysée n'écarte pas l'hypothèse d'une réponse en silence du président, qui pourrait s'arrêter devant la plaque honorant la mémoire des Juifs déportés. Car pour Emmanuel Macron, chaque déplacement est aujourd'hui l'occasion de prendre sa part dans la campagne.
Merci Jacques Serret du service politique d'Europe 1. Enquête ouverte par le parquet de Bobigny après les violences commises lors du premier meeting d'Éric Zemmour dimanche à Villepinte. Les investigations sont divisées en 2 sur les violences contre les militants de SOS Racisme et sur celles visant le candidats avant qu'il entre en scène. 7 gardes à vue ont été prolongés.
La souveraineté ukrainienne doit être respectée par la Russie, mise en garde hier de Paris, Londres, Rome, Berlin et Washington.
Les dirigeants se sont entretenus et sont d'accord. Il faut maintenir la paix et la sécurité en Europe.
Une paix menacée par l'envoi de plus de 100 000 soldats russes ces dernières semaines à la frontière ukrainienne.
Un sujet brûlant qu'aborderont Joe Biden, le président américain et son homologue russe Vladimir Poutine aujourd'hui lors d'un entretien. Alexis Guilleux, vous êtes notre correspondant aux États-Unis. La Maison-Blanche n'hésitera pas à hausser le ton.
Oui, les États-Unis et l'Europe prendront de lourdes et sévères sanctions financières vis-à-vis de la Russie en cas d'invasion de l'Ukraine. D'après un haut responsable américain, Washington est également prêt à renforcer sa présence militaire en Europe de l'Est en cas d'attaque russe. Joe Biden a déjà promis une longue discussion avec Vladimir Poutine et répétera que les États-Unis ne recherchent pas de confrontation militaire. Le président américain devrait mettre l'accent sur des alternatives diplomatiques, même si sur ce point, la Maison-Blanche reste très floue. Joe Biden s'est entretenu hier avec ses alliés européens, des concertations pour afficher une unité face à Moscou. Un entretien avec le président ukrainien est également prévu dans la foulée de son rendez-vous avec Vladimir Poutine. Selon un document du renseignement américain, la Russie a mis en place ses pions en vue d'une possible invasion de l'Ukraine dès début 2022. La Maison-Blanche admet ne pas connaître les intentions de Vladimir Poutine, mais redoute une répétition du scénario de 2014 et l'annexion de la Crimée.
Alexis Guilleux, correspondant européen aux États-Unis.
Et quelles sont les intentions de Vladimir Poutine? C'est la question que l'on posera à 6h10 à notre invité, le géopolitologue et spécialiste de la Russie, Cyril Brett. Du foot également ce soir. Dernière journée des phases de groupe de la Ligue des Champions avec PSG Bruges.
Coup d'envoi 18h45 au Parc des Princes, mais sans Sergio Ramos. Forfait, un match sans enjeu majeur pour Paris, assuré de terminer deuxième de son groupe juste derrière Manchester City. Mais Cédric Chasseur, l'intérêt est ailleurs pour le club de la capitale.
Oui, les Parisiens, libérés de l'enjeu sportif, doivent nous montrer ce soir qu'ils sont capables de jouer en équipe, ce qui n'est pas forcément très visible depuis quelques matchs. Certes, le PSG est qualifié pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Certes, le club de la capitale est largement en tête du championnat de France. Mais Paris déçoit dans le jeu collectif. Mauricio Pochettino en a conscience, mais défend bec et ongles son effectif.
Malgré les résultats, le monde ne va pas encenser cette équipe. Et je respecte cette opinion. Est-ce que l'on doit jouer mieux? Oui. Est-ce que l'on doit s'améliorer dans de nombreux aspects? Oui. Mais les bruits autour d'un club comme le PSG font partie de la vie. Nous, nous sommes tranquilles et nous suivons notre chemin.
L'entraîneur du PSG tente de garder le cap. Il dit avoir le soutien de sa direction et de ses joueurs. Et bien à eux de le montrer ce soir avec, au-delà du résultat, une performance enfin digne de ce nom, digne de l'effectif du Paris Saint-Germain.
Cédric Chasseur du service des sports d'Europe 1.
C'était le journal d'Alban Le Prince. Merci beaucoup Alban.
Il est 5h09 et c'est l'heure des courses sur Europe 1. Le Paris gagnant de Thierry Léger. Bonjour Thierry.
Bonjour Omblin, il y aura des courses cet après-midi sur l'hippodrome de Chantilly et mon pari gagnant sera le 204 RAN. Éloigné des pistes durant tout l'été, en raison de problèmes de santé désormais résolus grâce aux bons soins de son entraîneur Pascal Barry, cette pouliche, visiblement douée et très estimée, vient d'effectuer une prometteuse course de rentrée après 6 mois d'absence le 2 novembre à Chantilly, où elle est revenue de loin conclure 3e dans une action annonciatrice d'une victoire dès cet après-midi. Alors notez bien, pour Chantilly, réunion 1, dans la 2e course, le numéro 4, RAN.
RAN, le numéro 4, c'est noté. Merci Thierry Léger et dans une demi-heure pour vos pronostics du Quintet. Et merci à vous de nous confier votre réveil. Courage si vous partez déjà au travail, mais restez branchés sur Europe 1 car le pressing arrive dans une minute.
3 articles insolites avec au menu ce matin, les dîners clandestins à Koh-Lanta, pas facile d'être l'homonyme de Lionel Messi, et un autocollant qui préserve l'éclat des fruits. À tout de suite.
Et Julien Pierce sur Europe 1.
Il est 5h11, bon mardi matin, le 7 décembre. Hein, vous pensez à la 7e fenêtre du calendrier de l'Avent, messieurs. Un petit chocolat justement derrière.
Est-ce que sérieusement, l'un d'entre vous a un calendrier de l'Avent?
J'en ai même deux.
Non.
Mais bien sûr.
Vous êtes des malades.
Mais non, c'est
alors
un rituel.
Deux, je ne sais pas pourquoi, mais un.
J'ai du monde à la main. Bon, alors, on déguste le chocolat et on écoute le pressing avec vous, Martin.
Bonjour, Martin.
Bonjour, Julien. Bonjour, Oubli. Bonjour à tous.
On commence avec les unes de vos journaux. Valérie Pécresse s'invite dans la bataille du second tour, titre Le Figaro. qui publie ce matin un sondage marqué par une progression spectaculaire. La candidate LR bondit de 7 points à 17% des intentions de vote, ce qui lui permet d'envisager une présence au second tour. Une progression également à la une d'aujourd'hui en France, une progression inquiétante, celle du nombre de conducteurs sans permis. Il serait près de 800 000 aujourd'hui à circuler sans en avoir le droit, 300 000 de plus qu'il y a 10 ans. Et puis, l'image du foot français est en danger. C'est la citation que l'on trouve à la une de L'Équipe. Elle est signée Pablo Longoria. Le président de l'Olympique de Marseille réclame des sanctions exemplaires alors que la Ligue rendra demain son verdict sur les graves incidents d'OL-OM du 21 novembre. Voilà pour les unes. Ombline, quel article avez-vous sélectionné ?
Tricherie en bande organisée. Ça me fait rire d'avance. Voilà ce qu'écrit le Parisien aujourd'hui en France à propos d'une nouvelle affaire Koh-Lanta en Polynésie française. Après le steak frites du candidat Théoura, les dîners clandestins. Et finalement, on le comprend bien. Quand la faim vous tord le ventre, vous redoublez d'ingéniosité afin de trouver de la nourriture. Et on apprend donc que certains ont été bien plus imaginatifs que Théoura, qui, pour rappel, en plus du steak frites, a commandé des légumes dégustés également par deux autres candidats, Sam et Claude.
En fait, il y a Uber Eats à Koh-Lanta.
Non mais cette histoire est folle. Voici donc cinq aventuriers dont les noms n'ont pas été dévoilés, qui avaient un modus operandi bien huilé. Lors des fameuses expéditions de nuit pour se rendre au conseil, ils attendaient que les gardiens censés surveiller les votes s'endorment. Vous savez, voter au conseil. Il se trouve que le lieu où les flambeaux sont éteints les uns après les autres par Denis Brognard est situé non loin d'une pension de famille. Et un couple a fait preuve d'une grande hospitalité invitant les candidats affamés dans leur cuisine au menu de la nourriture salée, sucrée et des boissons énergisantes, histoire de bien se remettre sur pied. Si c'était arrivé une fois, bon, moment de faiblesse, on peut comprendre, on l'admet. Mais ces dîners clandestins étaient devenus carrément des rituels. Donc après chaque conseil, potentiellement tous les trois jours, finalement, on se rend compte que la faim, F-A-I-M, justifie les moyens et au diable les sanctions. Toutes ces informations viennent de personnes présentes sur le jeu de TF1 et le quotidien leur a garanti un anonymat total. Ce qui est le cas, il n'y a aucun nom cité dans l'article. Il faut dire qu'on
donc
joue...
pas de sanctions.
Bah, a priori, en tout cas, pas. L'enquête est en cours. Des enquêtes sont en cours. On va suivre ça, évidemment, cette affaire. On ne joue pas avec la clause de confidentialité, Julien. Elle est impitoyable. Toute violation de cette clause par l'un des aventuriers prive l'ensemble des candidats d'une prime de 2000 euros. Prime de confidentialité. Et celui qui aura l'audace de dévoiler des informations à la presse sera redevable d'une amende de 30 000 euros. Une clause de confidentialité non négociable destinée, finalement, à protéger, entre autres, le candidat chouchou, Claude, et qui est encore en lice. Ce soir, il participera à l'épreuve d'orientation. Des aventuriers de Koh-Lanta qui se nourrissent en douce. C'est dans le Parisien aujourd'hui en France et c'est toujours aussi croustillant.
Merci Ombline. Martin, à vous.
Vous connaissiez tous Lionel Messi, le meilleur joueur de foot de la planète.
Difficile d'y échapper. Hein.
Exactement, qui vient de remporter son 7e ballon d'or et qui joue ce soir contre Bruges avec le PSG. On en parlait à l'instant dans le journal. Mais ce matin, je vous présente l'autre Lionel Messi, son homonyme, lui aussi footballeur. Il évolue au niveau amateur, certes, mais ce nom si particulier lui a permis d'acquérir une petite notoriété régionale. Lionel Messi a 26 ans, il joue au Toulouse Rodéo, club de 6e division, et là-bas c'est une vraie star du genre à se faire acclamer en boîte de nuit. Alors d'où vient ce patronyme si original ? Eh bien du Cameroun et de son grand-père maternel. Hein. Là-bas, le nom Messi est assez commun. Plus drôle encore, le surnom de notre footballeur amateur, hein, Léo, comme la star argentine. Alors, il y a d'autres points communs entre les deux hommes. Lionel, comme Messi, a été formé en Catalogne, à deux pas du Camp Nou, le stade du Barça.
Ah ouais.
Mais quand Lionel, l'Argentin, explose, Léo, le Camerounais, décide lui de rejoindre sa mère à Toulouse. C'est là que les premières curiosités naissent, hein, des camarades de classe qui ne le croient pas et l'obligent à sortir sa carte d'identité. Pourtant, hein, c'est écrit, il s'appelle bien Lionel Messi Niamsi. Alors, il y a parfois des bons souvenirs, comme quand il se fait contrôler en voiture et que les policiers, abasourdis, hein, le laissent repartir sans amende. Mais il y a aussi cette pression inévitable à son oncle, le jeune Lionel n'a pas choisi. À 17 ans, il est recruté par le centre de formation d'Angers, qui communique évidemment sur sa prise. Son visage fait la une des journaux et les supporters affluent sur les terrains d'entraînement. Mais n'est pas Messi qui veut et le grand défenseur central n'a rien de la géniale puce argentine. Alors très vite, les critiques pleuvent. L'expérience angevine tourne court. Sans contrat, Lionel s'expatrie en Italie, mais là aussi sans succès. Il revient donc à Toulouse, près de sa mère, et écume les petits clubs de la région. Il jouera 5 matchs en national avec Colomiers, l'apogée de sa carrière. Parfois, les présidents des différents clubs lui signent un petit chèque pour la visite qu'il apporte justement à ses clubs, mais jamais de quoi vivre pleinement du foot. Aujourd'hui, Lionel gagne 400 euros au rodéo et complète en préparant des commandes le matin. Mais il a retrouvé l'anonymat et peut regarder tranquillement Messi, le vrai, le mardi soir en Ligue des Champions. Pas facile d'être l'homonyme de Lionel Messi, c'est-à-dire sur le site de France Football.
Dommage qu'il ait choisi le football. S'il avait été pongiste, par exemple, il n'y aurait pas eu de problème.
Peut-être, ouais, rugbyman, et c'est ça. C'est ça le problème.
Merci beaucoup, Martin. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé d'oublier un peu trop longtemps à l'air libre ou dans votre réfrigérateur des pêches ou des citrons, par exemple ?
Régulièrement.
Toutes les semaines.
Voilà, le résultat, des fruits à la peau toute fripée. Alors ça, c'est éventuellement encore mangeable. Ce qui ne l'est pas, en revanche, c'est quand le fruit a noirci et est recouvert de moisissures. Là, c'est direction poubelle. Et on ne va pas se mentir, effectivement, on l'a tous déjà fait. On a tous découvert des fruits et légumes momifiés au fond de son réfrigérateur. Et ce n'est pas bien, vraiment, parce que chaque minute, nous jetons autant de nourriture qu'il en faudrait pour nourrir plus d'un millions de personnes. Donc à la fin de la journée, nous avons gaspillé l'équivalent des petits déjeuners, déjeuners et dîners quotidiens d'1,5 milliard de personnes, soit 20% de l'humanité. Donc non, ce n'est vraiment pas bien. Et c'est là que la technologie peut nous venir en aide. Il existe déjà des applications qui nous permettent de mieux gérer son réfrigérateur. Vous scannez les produits et ça vous alerte quand la date de péremption approche. C'est très pratique. Mais que faire pour les fruits ? C'est la question que s'est posée la start-up belge Rip Labs, qui fait l'objet d'un article sur le site des Échos. S'il est très compliqué de prédire avec exactitude quand les raisins ou l'avocat vont commencer à se couvrir de moisissures, en revanche, il est possible de prolonger leur durée de vie, le tout grâce à un sticker. Vous savez, ces petits autocollants de forme ovale, généralement, que l'on trouve souvent sur des pommes ou des bananes, c'est de la pub. Eh bien, cette entreprise belge a réussi à transformer ces stickers en barrières protectrices autour du fruit.
Des stickers protecteurs. Comment ça marche ?
Grâce à une odeur. Vous aimez bien, j'imagine, celle de la lavande, qui ne l'aime pas. C'est une arme en réalité, cette odeur. Elle provient de ce que l'on appelle les métabolites secondaires. Toutes les plantes en produisent dans le but de se protéger, notamment contre certaines maladies post-récolte comme les champignons. Donc, ce qu'a fait cette entreprise, c'est identifier les métabolites les plus protectrices, celles qui couvrent le plus de maladies et qui sont efficaces sur le plus de fruits, puis d'encapsuler cette odeur, cette formule chimique dans le sticker, charge à lui de diffuser le plus lentement possible. Résultat, selon Rip Labs, un fruit équipé de son autocollant peut se conserver jusqu'à 14 jours de plus qu'un fruit tout nu. La preuve en vidéo, je les ai regardés cette nuit, on voit très clairement en accéléré deux mangues filmées en accéléré, l'une noircie à vitesse grand V, quand l'autre, grâce à son sticker, reste jaune bien plus longtemps. Alors selon cette start-up...
Vous avez décidément des nuits passionnantes.
Ouais, avez... merci Robin. Cette solution chimique totalement naturelle fonctionne sur de nombreux fruits, pêche, cerise, avocat, fraise, framboise ou encore raisin, et surtout elle ne coûterait pas très cher à mettre en œuvre, ce qui n'a pas échappé à la plus grande entreprise au monde, rien que ça, le géant américain de la distribution Walmart, qui teste actuellement ses autocollants qui prolongent donc la durée de vie des fruits.
Alors je vous souhaite bon courage, vous regardez les vidéos en accéléré, puis vous mettez des stickers sur chaque raisin, sur chaque cerise.
Non, alors
après,
pour, les raisins,
Bah oui, parce qu'ils ont, ils meurent de faim.
Pour les raisins, un seul sticker suffit pour une grappe, heureusement.
Mais c'est bien de le préciser, merci beaucoup Julien. Le rideau se tombe sur le pressing et Martin, on vous retrouve dans une quarantaine de minutes pour les sports.
À tout à l'heure.
À tout à l'heure.
Europe Matin, Omblin Roche et Julien Pierce.
5h20 sur Europe 1, les principaux titres de ce mardi, Alban Le Prince.
L'exécutif hausse le ton face à la flambée de l'épidémie de Covid en France et annonce de nouvelles mesures. À partir de vendredi, les discothèques fermeront leurs portes pour 4 semaines. Pour les entreprises qui le peuvent, le télétravail doit être privilégié. 2 à 3 jours par semaine, le protocole sanitaire change encore dans les écoles. À noter également, 25 cas du variant Omicron sont identifiés en France métropolitaine, dont 4 qui proviennent du sol français. Et en raison de l'explosion du nombre de cas en Europe, les États-Unis déconseillent désormais à leurs ressortissants de se rendre dans une dizaine de pays, dont la France et le Portugal. Emmanuel Macron poursuit son tour de France des territoires, direction le Cher et l'Allier pour 2 jours avec un arrêt à Vichy. Demain, premier président à s'y rendre depuis Valéry Giscard d'Estaing en 1978. Et puis en Guadeloupe, toujours sous tension, 7 interpellations hier après des affrontements entre gendarmes et manifestants sur un barrage. 3 militaires ont par ailleurs été blessé par des jets de pierre.
Europe 1. BNP Paribas, banque référente des entreprises, vous présente Initiative en France.
Vous êtes entrepreneur, élu ou membre d'une association, vous faites bouger les lignes, et bien on vous donne la parole chaque matin sur Europe 1.
Bonjour Cédric Longin.
Bonjour.
Merci de nous accorder quelques minutes. Vous êtes le directeur exécutif de CCB Green Tech, une entreprise iséroise qui a mis au point ce qui pourrait bien révolutionner le secteur de la construction du béton de bois. Expliquez-nous.
Alors, nous avons eu 15 ans de recherche et développement qui nous ont permis de mettre au point une formulation de béton où nous avons pu remplacer le gravier et le sable par des copeaux de bois qu'on appelle du granulat de bois et qui permet d'obtenir un béton biosourcé à bilan carbone négatif.
Alors vous appelez ça le timber rock. Pour que nos auditeurs visualisent bien, quand on regarde de près un panneau de ce béton de bois, on voit bien des copeaux agglomérés. Quelle est la composition de ce béton de bois exactement ?
Alors, il y a en fait 90% de bois en volume et 60% en masse. La composition est simple, hein. Il y a du ciment, de l'eau et du bois. Et majoritairement du bois issu de forêts françaises uniquement. Et toutes sont labellisées PEFC, c'est-à-dire gérées durablement.
Alors, premier avantage de ce béton de bois, son bilan carbone, c'est sans commune mesure avec du béton classique ?
Alors, c'est effectivement très différent dans la mesure où il y a énormément de bois. Par le processus de la photosynthèse, lorsque l'arbre pousse, il absorbe du carbone et réintroduit de l'oxygène dans l'atmosphère. Ce carbone est stocké dans le bois et nous, lorsque nous en faisons du granulat de bois, nous gardons ce CO2, bien sûr, dans le granulat de bois qui est ensuite enfermé dans une matrice cimentaire. Et donc, in fine, ce stock de CO2 reste dans les murs ou dans les dalles.
Votre béton de bois est bon pour la planète, alors que le béton classique, lui, est extrêmement nocif, extrêmement mauvais.
Alors, je n'irai pas jusqu'à critiquer le béton classique, qui a été très utile pendant des décennies et qui va l'être encore.
Mais ça produit beaucoup de CO2 quand même.
C'est nettement plus émissif, oui. Ceci dit, il faut reconnaître que nos confrères ont fait de gros efforts et qu'ils sont maintenant en mesure de sortir des bétons nettement moins carbonés. Alors, le nôtre a l'avantage de ne pas être moins carboné. Il a vraiment un bilan carbone négatif parce que le bois absorbait plus de CO2 que le ciment n'en a émis pendant sa production.
Deuxième avantage, le bois est un excellent isolant. Donc, ça veut dire qu'on peut construire une maison avec votre béton de bois sans avoir éventuellement à rajouter de la laine de verre, par exemple ?
Pour respecter les réglementations en vigueur, si, il faut un isolant complémentaire. Maintenant, l'expérience terrain nous montre que ça n'est pas vraiment nécessaire, mais les réglementations reposent sur ce que les spécialistes appellent le R ou encore le lambda, en gros la résistance thermique. Notre matériau a d'autres atouts, notamment une très très forte inertie et un taux d'amortissement thermique très important qui ne sont pas encore vraiment pris en compte par les modèles de calcul, mais ça va venir, il s'agit d'un nouveau matériau, il faut que les modèles s'adaptent aussi aux matériaux biosourcés.
Quand vous dites notre expérience terrain, ça veut dire qu'il y a déjà des bâtiments qui ont été construits avec ce matériau ?
Tout à fait, la R&D qui a duré 15 ans est aussi passée par le terrain, car il s'agissait de vérifier en fait ce qui était calculé en labo. Et il y a eu une soixantaine de bâtiments qui ont été construits. Et la façon la plus intéressante de découvrir le béton de bois et d'échanger avec les habitants de ces bâtiments qui sont tous très très attachés à leur maison ou à leur bureau parce qu'il y a de fortes économies d'énergie en hiver. Et puis en été, le bâtiment reste beaucoup plus frais que les bâtiments traditionnels.
Et ça a la même résistance que le béton classique ? On peut construire de grands bâtiments avec ?
Alors, on peut monter jusqu'à du R+7 selon les principes constructifs que nous avons mis en place.
Ça veut dire 8 étages, c'est ça ?
Oui, tout à fait, pardon. Cependant, nous allons venir en complément d'une structure béton ou d'une ossature bois pour les bâtiments les plus élevés. Donc, on ne remplace pas le béton, on vient aussi en complément d'autres matériaux. Vous savez, aujourd'hui, le bâtiment idéal tel qu'il est défini par les spécialistes est un bâtiment hybride où on met le bon matériau au bon endroit.
Et le prix dans tout ça ? J'imagine que, vu la nouveauté de votre produit, ça coûte légèrement plus cher que du béton classique ?
Oui, en effet, c'est un petit peu plus cher. C'est par contre nettement moins cher qu'un bâtiment en ossature bois. Donc nous sommes en gros dans les prix de marché. Nous avons des retours très très positifs à ce sujet-là. Au regard des qualités du bâtiment, le prix reste très intéressant.
Dernière question, qu'en est-il de la résistance au feu ?
Alors, c'est une question qui est très bonne parce que ce n'est pas forcément intuitif, mais le béton de bois est extrêmement résistant au feu. Les résultats ont été Très très surprenant même pour les labos de test, puisque on peut dire que le matériau à partir d'une certaine épaisseur ne brûle tout simplement pas.
Merci beaucoup Cédric Longin de nous avoir présenté ce matériau révolutionnaire signé CCB GreenTech, le Timber Rock, donc c'est du béton de bois, peut-être la solution pour décarboner le secteur du BTP à l'avenir. Bonne journée à vous.
Merci beaucoup à vous et à toute l'équipe et bonne journée à tout le monde.
Europe Matin, Omblin Roche et Julien Pierce.
Il est 5h28, on jette tout de suite un œil sur le programme de la prochaine demi-heure, Omblin.
Un roman pour claquer des dents et avoir les mains moites ce matin. Nicolas Caro a choisi Les histoires qui font peur, racontées par Jérémy Fell dans son nouveau livre Nous sommes les chasseurs.
Et puis c'est une tradition dans de nombreuses entreprises se retrouver en fin d'année autour d'un verre et des petits fours.
Oui, avec le sapin de Noël qui scintille dans la salle de réunion, la fête risque d'être une fois de plus gâchée cette année à cause du Covid et de la recrudescence des contaminations. Les pots au bureau sont annulés les uns après les autres, la tenue de ces cocktails est pourtant très importante pour la cohésion des équipes, on le sait tous, mais voilà, selon la ministre du Travail Elisabeth Borne, ces événements ne sont pas recommandés une fois de plus. Les traiteurs et les restaurateurs vont rester sur leur faim, on en parle dans un quart d'heure avec le président des Traiteurs de France.
De la pluie et des vents forts au programme, ma chère Anissa.
Un programme très agité. Et alors ça va durer comme ça toute la semaine, on va avoir même un risque d'inondation et de crue dans le sud-ouest. Alors il faut savoir que ce temps très agité, il est provoqué par la tempête Barra qui sévit en Irlande. C'est une tempête très forte, ce qu'on qualifie de bombe météo, entre nous.
Carrément.
Donc dès ce matin, ouais, c'est très très fort. Dès ce matin, le vent souffle entre la Vendée et les Hauts-de-France sur le littoral. Nous avons des rafales qui pourront atteindre les 110 km/h avec d'importants coefficients de marée, jusqu'à 90. Tiens, il y a Paul qui nous envoie un message. Alors lui, il travaille en camionnette entre Cherbourg et Gadeville-le-Phare et il nous dit que le vent souffle déjà bien. Alors Paul, soyez prudent parce que ça va s'intensifier au fil des heures. Ce matin, sur l'ensemble du pays, nous avons déjà quelques éclaircies, sauf à l'est. Voilà, en Alsace, jusqu'aux Alpes du Nord, on a la perturbation d'hier qui est en train de s'évacuer, donc il reste encore des petites averses et des petites chutes de neige. Cet après-midi, le ciel va se couvrir sur toute la moitié ouest du pays, avec des pluies soutenues, en particulier sur le Cotentin et la Gironde. On a des entrées maritimes aussi sur le golfe du Lion. Et puis un temps plutôt sec et voilé sur la moitié est. Moins 3 à 9 degrés ce matin. On a moins 2 à Gap, 3 à Paris et 9 à La Rochelle.
Merci beaucoup Anissa Haddadi. Bon réveil à tous à l'écoute d'Europe 1. Il est 5h30.
Europe 1. C'est un scandale. Laissez Napoléon où il est.
J'ai l'intention de mourir en voyant toujours Napoléon sur son piédestal.
Rendez-nous Napoléon à Rouen. La population est invitée à se prononcer sur l'avenir de la statue de l'empereur. La mairie est prête à la remplacer par une autre figure historique. Le gouvernement veut aider les entreprises à passer le cap de la cinquième vague. Après la fin du quoi qu'il en coûte, place au quoi qu'il arrive. Et puis l'affaire fait scandale au Royaume-Uni alors que le gouvernement lance un grand plan de lutte contre la drogue. Des traces de cocaïne ont été retrouvées dans les toilettes du Parlement britannique.
Europe Matin, Omblin Roche et Julien Pierce.
Et à 5h30, le journal vous est présenté par Christophe Lamarre. Bonjour Christophe.
Bonjour Julien, bonjour à tous. Pour ou contre le retour de Napoléon sur la place? C'est à cette question que les Rouennais doivent répondre. C'est le maire socialiste qui a eu l'idée de cette consultation sur l'avenir de la statue. L'empereur doit-il retrouver son socle face à l'hôtel de ville ou alors être remplacé par une figure féminine comme le souhaite la municipalité? Eh bien les habitants semblent très partagés. Reportage à Rouen, Zoé Palier.
C'est vers un socle nu, sans statue pour le couvrir, que les passants lèvent désormais les yeux, impatients pour beaucoup de retrouver leur Napoléon de bronze sur son cheval cabré. Simone et Jocelyne n'imaginent pas quelqu'un d'autre dominer la place de l'hôtel de ville.
C'est un scandale. Laissez Napoléon où il est.
J'ai l'intention de mourir en voyant toujours Napoléon sur son piédestal. Ça représente notre ville telle qu'elle a toujours été. Pourquoi changer?
Changer, justement, c'est pour ça que Prosper votera pour l'installation d'une nouvelle statue.
Une femme à cette place-là, ça irait très bien. Je l'imagine déjà dans ma tête.
Une femme, à condition pour certains que son nom évoque Rouen.
Madame Bovary, par exemple.
Le maire de Rouen, lui, avait pensé à Gisèle Halimi. Nicolas Maillet-Rossignol, qui se défend de simplement déboulonner la statue de Napoléon Ier.
On investit 200 000 euros pour restaurer une statue. On va pas la cacher, on met pas 200 000 euros pour la mettre aux oubliettes. Les statues, elles ont toujours bougé. Les grands hommes de Rouen, c'est Corneille, Maupassant, Flaubert. Il y a une statue de Corneille, elle a bougé dans l'histoire. Il y a une statue de Flaubert, elle a bougé dans l'histoire.
Et si après sa rénovation, la statue de l'empereur perd sa place devant la mairie, ce sera aux Rouennais aussi de décider de son nouvel emplacement.
Zoé Pallier, le vote sera clos demain soir.
On en vient à la crise sanitaire et on a donc le détail des nouvelles mesures du gouvernement pour lutter contre l'épidémie.
L'école passe au niveau 3, masque obligatoire à l'extérieur et à l'intérieur pour les élèves du primaire comme pour leurs enseignants. Il n'est pas prévu d'avancer les vacances scolaires à ce stade. Le gouvernement va par ailleurs ouvrir la vaccination des 5-11 ans à risque dès le 15 décembre. Pour les 65 ans et plus qui n'ont toujours pas eu leur troisième dose, ils pourront la recevoir sans rendez-vous dans le centre de leur choix.
Et dans cet arsenal anti-Covid, il y a aussi les mesures qui ciblent les entreprises. Le gouvernement sort à nouveau le chéquier.
Un peu plus de deux mois après la fin du quoi qu'il en coûte, place au quoi qu'il arrive, terme employé par le ministre de l'économie sur notre antenne la semaine dernière. Les patrons de discothèques dont les établissements seront fermés entre le 10 décembre et le 10 janvier apprécieront au premier chef. Au-delà du monde de la nuit, plusieurs secteurs sont toujours en grande souffrance. Le Premier ministre a donc annoncé une nouvelle salve d'aide. Élise Dangean.
Oui, des aides très ciblées. D'abord, évidemment, pour les discothèques, sommées de fermer pendant un mois. Dès aujourd'hui, leurs représentants seront reçus par le ministre chargé des petites et moyennes entreprises, Alain Griset. Mais ça ne s'arrête pas là. Le gouvernement veut aussi aider le secteur de l'événementiel et les traiteurs frappés de plein fouet par des annulations en cascade. Depuis 10 jours déjà, les contacts se multipliaient. À Bercy, le gouvernement avait besoin de réactualiser ses chiffres, de faire le point sur la situation de chacun. Reste à trancher le type d'aide débloquée et sur la base de quels critères l'année 2019 peut-elle par exemple toujours servir de référence? C'est l'une des questions en suspens avec un objectif, faire du sur-mesure, avec l'espoir que la troisième dose du vaccin permette de revenir rapidement à une situation plus normale.
Élise Dangean.
Il y a aussi la question du télétravail que le gouvernement souhaite encourager. 2 à 3 jours par semaine, disait hier soir Jean Castex. De quoi vider un peu plus les métropoles de leur cadre.
À commencer par Paris, on ne va pas encore parler d'exode, mais la capitale voit ses cadre la déserter dès qu'ils le peuvent. Ces nouvelles mesures ne devraient finalement qu'accélérer une tendance à l'œuvre depuis le premier confinement. Les Parisiens veulent de l'espace, de la verdure et du calme. Pas forcément avec vue sur la mer, non. Ce qui plaît aujourd'hui, c'est la vue sur une cathédrale. Mais oui, illustration à Chartres en Eure-et-Loire, reportage au CNTA.
Loin de la foule et du métro parisien, le nouveau paradis de Claire et Jean-Charles depuis un an, c'est cette coquette maison en pierre des années 30. 120 mètres carrés, soit 3 fois la surface de leur ancien appartement.
4 escaliers sans ascenseur avec un premier enfant. On a envie de plus de verdure, plus d'espace et donc on est arrivé ici. On a vu la maison, on s'est dit « Oh mon Dieu, merci !»
Passage obligé par leur bureau parisien 2 jours par semaine. Mais le reste du temps, ils télétravaillent dans leur véranda inondée de lumière face aux arbres du jardin.
Aujourd'hui, on n'a plus du tout la même vue, donc on a beaucoup plus d'espace, c'est beaucoup plus libre et c'est quand même beaucoup plus calme, on n'entend pas un bruit quand on travaille et c'est vraiment agréable.
Niveau rez-de-chaussée, 2 étages. Alors on a vu depuis la fin du premier confinement un gros boost de la demande des franciliens, des parisiens.
C'est l'agence de Nicolas Maître-Jean qui a déniché au couple ce cocon à 400 000 euros, une mission quasi quotidienne pour ce professionnel de l'immobilier.
Ils ont un pouvoir d'achat supérieur, clientèle plus exigeante avec d'autres moyens. Mais qui achètent.
Ces nouvelles arrivées ont aussi fait grimper le prix de l'immobilier à Chartres, plus 7% en un an.
Océane Théard.
On en vient à ce tollé en Grande-Bretagne. En plein débat sur la lutte contre le trafic de drogue, les parlementaires sont pris les doigts dans la poudre.
Ouais, des traces de cocaïne ont été retrouvées dans les toilettes du Parlement britannique. Et pas un seul toilette, non. Mais 11 sur les 12 que compte le palais de Westminster. Ça fait quand même désordre. Le président de la Chambre a évidemment demandé aux policiers d'ouvrir une enquête. Reportage à Londres d'Anaïs Cordoba.
C'est le Sunday Times qui a fait ces révélations. Des traces de cocaïne auraient été retrouvées dans 11 toilettes sur 12 au sein du Parlement. Certaines de ces zones sont juste à côté du bureau de Boris Johnson. Selon le journal, les autorités de la Chambre des communes auraient aussi reçu des plaintes pour des odeurs de cannabis dans les espaces communs. Pire, un ancien député aurait salarié un dealer en tant que membre de son équipe. Suite à la publication de cette enquête, le président de la Chambre des communes a alerté la police et promis des sanctions. Le secrétaire d'État à la police, Kit Malthouse, a dû réagir à la télévision.
Plusieurs milliers de personnes travaillent dans l'enceinte du Parlement. Elles reflètent la société dans son ensemble, donc je ne serais pas surpris que parmi tout le monde, certains consomment des stupéfiants. Ça montre l'étendue du problème de la drogue.
Ces informations sont particulièrement particulièrement embarrassante pour le gouvernement qui lançait hier un plan d'envergure anti-drogue sur 10 ans qui prévoit notamment la pénalisation des consommateurs de stupéfiants. Londres, Anaïs Cordoba, Europe 1.
Il n'y aura pas de délégation officielle américaine aux Jeux Olympiques de Pékin. Washington annonce boycotter l'événement pour protester contre les violations flagrantes des droits de l'homme et les atrocités commises par la Chine dans la province du Xinjiang. Et puis le football, dernière journée de la phase de groupe de la Ligue des Champions, le PSG déjà qualifié reçoit Bruges à 18h45.
C'est noté, merci beaucoup Christophe Lamar pour ce journal. On passe aux courses, les pronostics du Quintet avec Thierry Léger. Bonjour Thierry.
Bonjour Julien, c'est sur les 1600 mètres de la piste en sable fibré de l'hippodrome de Chantilly que va se courir ce Quintet avec 15 chevaux et non 16 comme initialement prévu, le numéro 9 ayant été déclaré non partant. Classés respectivement 2e et 4e d'un quintet similaire le 23 novembre sur la PSF d'Auvillez, les numéros 5, Royaumont et 7, Letice Marvel, me semblent être deux bons favoris. Je sais qu'ils sont restés au mieux de leur forme depuis cette tentative et il n'y a donc aucune raison pour qu'ils ne puissent pas une nouvelle fois conclure dans les 5 premiers. On leur opposera les numéros 12, Nord-Est et 16, Agapimia, qui possèdent tous les deux des références solides sur cette piste, avec le numéro 4, Central Park West, associé au crack jockey Christophe Soumillon, avec lequel il a toujours fait l'arrivée. Enfin, les numéros 8, Crack Régiment, 15, J'aurais dû, et 6, Roberto Mont, sont autant de possibilités pour s'adjuger une place à une cote spéculative dans ce quintet. Mon pronostic, 5, 7, 12, 16, 4, 8, 15 et 6.
Des pronostics à retrouver sur Europe1.fr. Merci Thierry Léger. Europe1.fr, ah, allez-y tout de suite.
Ok, j'y vais. Voilà.
Merci, à demain.
Marie-Josée Pérec a appuyé sur l'accélérateur.
Dominique Strauss-Kahn entre les mains de la police à New York.
L'abolition de la peine de mort en France.
Europe 1.
Le jour où les grands faits historiques racontés à travers les incroyables archives d'Europe 1.
Et les récits de Pauline Jacquot. Bonjour Pauline.
Bonjour Ombline, bonjour Julien.
C'est aujourd'hui que l'un des hommes clés de l'affaire dite du FIFA Gate va connaître sa peine. Il s'agit de Jeffrey Webb. L'ancien vice-président du comité exécutif de la FIFA a été jugé pour corruption à New York dans le très large scandale qui a frappé l'institution il y a 6 ans. Affaire tentaculaire, Pauline, qui commence par un coup de filet spectaculaire le 27 mai 2015.
À 6h du matin, les policiers suisses frappent aux portes des responsables de la FIFA. Dans quelques jours, se tient l'élection du nouveau président de la superpuissance du foot mondial. Alors comme d'habitude, ils sont descendus dans ce luxueux palace du centre de Zurich. Ce matin-là, raconte François Claus, 14 membres sont interpellés, parmi lesquels Jeffrey Webb, escorté, visage caché par des draps blancs jusqu'au véhicule de police.
On leur reproche d'avoir touché des dizaines, des centaines de pots de vin, plusieurs dizaines, plusieurs millions de dollars, un système également de rétrocommission sur les droits télé. Le ministre de la Justice américain déclare la Coupe du Monde en Afrique du Sud en 2010, son attribution a été totalement corrompue.
La Coupe du Monde de 2010, mais aussi celles à venir en Russie, au Qatar, la justice suisse et américaine enquête depuis des années. Blanchiment, racket, corruption, c'est la première fois que la FIFA est attaquée par des instances judiciaires. Très vite, on apprend que le FBI avait une taupe depuis des années, un cadre de la FIFA corrompu qui a coopéré avec la police.
Voilà Chuck Blazer, agent double, muni d'un porte-clés micro caché au JO de Londres en 2012. Il enchaîne les rendez-vous, conversations avec tel ou tel responsable du foot mondial. Conversations enregistrées qui ont conduit au coup de filet de ce matin ici à Zurich.
Même s'il n'est pas directement mis en cause à ce moment-là, le scandale touche évidemment la personne de Sepp Blatter. Son aura, son omnipotence face à l'accumulation des accusations, son allié Michel Platini, président de l'UEFA, prend ses distances, écœuré, dit-il, et dégoûté.
Je lui ai dit, écoute Sepp, aujourd'hui je viens te demander de quitter la FIFA, de démissionner de la FIFA, de partir de la FIFA, parce que l'image est mauvaise, on ne peut plus continuer comme ça.
Entre les deux hommes, c'est la rupture. Cet affrontement restera au cœur du FIFA Gate pendant des années. Et les deux hommes s'accusent, ils sont aujourd'hui poursuivis notamment pour soupçon d'escroquerie. En 2015, Sepp Blatter est réélu pour la 5e fois à la tête de la FIFA. Mais 5 jours plus tard, il prend une décision à la surprise générale.
Ce mandat n'a pas le soutien de l'intégralité du monde du football et j'entends par là des supporters, des joueurs, des clubs. C'est pourquoi je remettrai mon mandat à disposition lors d'un congrès électif extraordinaire.
Et à partir de ce moment-là, Pauline, les révélations se multiplient.
De semaine en semaine, la presse révèle l'ampleur des pratiques frauduleuses de la FIFA, les pots de vin, les tentatives d'achat, de vote. L'institution mondiale ressemble à une organisation mafieuse. Aujourd'hui, la justice américaine a condamné plusieurs dirigeants dans le cadre de malversations, aucune encore concernant l'attribution de la Coupe du Monde au Qatar, même si, selon elle, il n'y a aucun doute, il y a bien eu corruption. Sur cette question, des enquêtes sont encore en cours en Suisse et en France.
Merci beaucoup Pauline Jacquot pour ce retour aux origines du FIFA Gate, donc.
Dans un instant, on parlera des pots de Noël en entreprise et des dîners annulés au grand désespoir des traiteurs.
Omblin Roche et Julien Pierce.
Votre matinale info sur Europe 1.
Très bon début de matinée, il est 5h44 sur Europe 1 et c'est à nouveau l'inquiétude pour les traiteurs et les restaurateurs. La recrudescence des contaminations au Covid pourrait bien leur gâcher les fêtes. Les annulations de commandes se multiplient ces derniers jours et on en parle, Omblin, avec le président des traiteurs de France.
Bonjour Alain Marco Tullio.
Bonjour.
Vous êtes également dirigeant de Marco Tullio Traiteur. Alors, pot de fin d'année, arbre de Noël, cocktail, dîner de fête en entreprise. Cette année encore, on risque de tirer un trait dessus. Votre activité est donc directement impactée. Lorsque la ministre du Travail, Elisabeth Borne, a fait savoir que tous ces événements d'entreprise au moment de Noël n'étaient pas recommandés, comment avez-vous réagi ?
Bah écoutez, on a réagi avec la peur au ventre, hein, parce qu'on avait l'impression de revivre carrément le cauchemar de 2020. Et donc c'est pour ça qu'on a immédiatement alerté le gouvernement qu'il fallait nous entendre le plus rapidement possible. Il ne faut plus attendre 3 mois parce que c'est maintenant que ça se passe. Et effectivement, vous l'avez dit, moi j'ai les chiffres à ce jour du réseau, c'est plus de 700 annulations en moins d'une semaine qui représentent 10 millions d'euros de perte de chiffre d'affaires.
Nombreux c'est donc dramatique. Enfin, remonter la pente, en plus avec des carnets de commandes bien remplis. Donc cette déclaration qui accompagne l'entrée en vigueur du nouveau protocole sanitaire en entreprise, c'est le coup de grâce.
Bah ouais, en tous les cas, sur les événements festifs, puisque c'est un peu le paradoxe, c'est qu'on peut vivre normalement, à condition d'avoir bien entendu un protocole, un pass sanitaire, et ça c'est l'évidence. Mais malgré un pass sanitaire, on ne peut pas, en tous les cas, on déconseille d'organiser des événements festifs, et donc automatiquement, nos clients ne prennent pas les risques.
Vous avez parlé d'annulation ces 7 derniers jours, donc vous avez eu la sensation d'être pris de court.
Ah mais clairement, en fait, il y a eu une annonce qui a été faite vendredi il y a 10 jours. Lundi matin, les annulations tombaient, mais incroyable. Et mardi matin, j'ai fait une réunion avec l'ensemble des traiteurs de France, c'était catastrophique. Mardi matin, on était à 240 annulations, vendredi 700.
Cette période des fêtes représente en plus un pic pour votre activité, vous l'attendez toute l'année ?
Oui, c'est ça. Puis c'est surtout qu'on sort quand même d'une crise incroyable. Donc en fait, on a repris que... à partir du mois de septembre, donc se remettre dans l'organisation des manifestations, etc. Et puis pour être de nouveau arrêté en décembre, ça c'est pas tenable. Franchement, c'est pas tenable.
Vous faites partie des traiteurs les plus touchés. Encore une fois, avec ces annulations en cascade, ça représente combien en moins la moitié de votre activité ? Ça va représenter quoi toutes ces annulations ce mois de décembre ?
Ouais, plus de 60% sur le mois de décembre, ça c'est certain, puisque le mois de décembre, vous avez deux catégories de clientèle pour les traiteurs organisateurs de réception, les événements d'entreprise avec les Christmas parties, avec les fêtes de fin d'année, les fêtes d'entreprise, les arbres de Noël et les vœux, et puis une partie privée qui, elle, n'est pas touchée pour l'instant ou pas trop, parce que quand vous faites des repas à domicile, bah, ça ne concerne que le particulier et donc il ne se sent pas concerné par ces interdictions, en tout cas ces préconisations. Parce que je rappelle qu'il n'y a pas d'interdiction quand même, hein, jusqu'à maintenant. Je ne sais pas ce qui va être annoncé.
La ministre du Travail disait pas recommandé, hein, elle n'était pas sur, effectivement sur l'interdiction.
Ça veut dire je n'interdis pas, mais je... préconise, en fait.
C'est toujours ce principe de précaution auquel vous êtes confronté.
C'est exactement ça, et c'est ça qui fait que les entreprises, qu'est-ce que vous voulez, ne prennent pas de risques. Hein. Ce que je peux comprendre, mais qui affecte carrément une profession. Et là, encore une fois, premier touché par rapport à ces événements.
Si les cocktails en entreprise sont annulés, vous l'avez dit, il vous reste les particuliers, les plats préparés pour Noël ou le réveillon du jour de l'an. Est-ce que ce sera suffisant ?
Non, bien sûr que non. Une fois que vous avez perdu 60%, de votre chiffre d'affaires de décembre, vous ne récupérez pas. Vous savez, on a des grosses structures. Les traiteurs événementiels sont des traiteurs qui ont des laboratoires conséquents, des grosses organisations, des camions, pour faire face justement à un chiffre d'affaires conséquent et qui est suivi toute l'année. Donc là, si vous n'avez plus que le particulier en fin d'année, certes, c'est bien, mais ça ne suffira pas.
Si vous ne pouvez pas aller à l'encontre des recommandations, on l'a bien précisé, vous actionnez, vous l'avez dit, le levier des aides. Quelles sont-elles et que demandez-vous ?
Pour l'instant, ce qu'on demande, c'est à rencontrer le gouvernement et en tous les cas le ministre de l'Économie et des Finances qui nous ont suivis depuis le départ de cette crise. C'est-à-dire qu'ils sont bien au courant que le monde des traiteurs, c'est un monde à part parce que lié à la restauration, mais lié aussi à la filière événementielle. Et que dès le mois de mars 2020, vous le savez, on a été touché tout de suite, avant que le président de la République prévoie les confinements, etc. Nous, avant le confinement, on avait déjà pratiquement tout arrêté, parce que déjà tout annulé, si vous voulez. C'est un peu ce qui se passe là au mois de décembre. Et donc, nous, ce qu'on demande, c'est aller voir et trouver avec eux tout de suite les solutions, mais immédiates. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut étudier pendant 3 mois, dans 6 mois. C'est immédiatement, peut-être que pour décembre, janvier, février, je ne sais pas combien de temps ça va durer, mais en tous les cas, c'est maintenant.
Message entendu par le gouvernement. Le Premier ministre Jean Castex a annoncé hier soir que votre profession, les traiteurs, allait être reçue dans les prochaines heures, les prochains jours, pour évoquer les aides à venir. Merci Alain Marcotulio d'avoir accepté l'invitation d'Europe 1. Je rappelle que vous êtes président des Traiteurs de France et dirigeant de Marcotulio Traiteurs.
Merci beaucoup.
Europe Matin.
Ombline Roche et Julien Pierce.
Il est 6h10 sur Europe 1, l'essentiel de l'actualité de ce mardi, le journal permanent Alban Le Prince.
Freiner l'épidémie de Covid, c'est l'objectif des mesures annoncées hier par Jean Castex et Olivier Véran. Avec la fermeture à compter de vendredi et pour 4 semaines des discothèques, la vaccination sans rendez-vous des plus de 65 ans, mais aussi la mise en place d'un protocole sanitaire renforcé dans les écoles. Le parquet de Bobigny ouvre une enquête sur les violences commises lors du meeting d'Éric Zemmour dimanche à Villepinte, investigation divisée en 2, sur les violences contre les militants de SOS Racisme et sur l'agression du candidat avant son entrée en scène, 7 gardes à vue ont été prolongées hier. Et puis du foot à suivre ce soir avec la dernière journée des phases de groupe de la Ligue des Champions. Le PSG reçoit Bruges à 18h45 au Parc des Princes.
Voilà pour l'actualité. Place maintenant à la culture sur Europe 1.
Et le mardi, on parle littérature avec vous, Nicolas Carreau. Bonjour.
Exactement. Jérémy Fell, que l'on avait laissé avec Elena, paru il y a 3 ans, un roman noir, terrible et très bien fichu, et surtout parfaitement écrit. Jérémy Fell est un jeune écrivain, adepte des histoires qui font peur, mais qui ne met pas de côté le style et l'invention littéraire.
Cette histoire qui fait peur, c'est le livre « Nous sommes les chasseurs ». Et qu'est-ce qu'il raconte, Nicolas, dans ce livre ?
Alors, il y a plusieurs histoires, mais je vous préviens, ça faisait longtemps que je n'avais pas fait ça. Mais en le lisant, je suis allé vérifier que la porte de chez moi était bien fermée. Et pendant une scène de suspense, j'ai reçu un appel, j'ai sursauté parce que Jérémy Fell vous agrippe et vous emmène avec lui dans des histoires de dingue où le mal prend une place importante sous différentes formes, sous la forme de Gabriel, par exemple, qui revient plusieurs fois. On le découvre dans une situation pourtant paisible et bucolique, dans une prairie, assis en tailleur, avec un petit groupe. C'est le printemps, c'est chouette, mais soudain, tout le monde sort une fiole et l'avale, y compris Gabriel, mais lui avait remplacé le cyanure qui s'y trouvait par de l'eau. Et ensuite, il observe tous les autres trépassés. C'était lui le gourou, en fait, et il voulait simplement voir à quel point il pouvait manipuler des gens. Il est content de lui, et ensuite, on le retrouve dans d'autres situations tout aussi terribles.
Oh, effectivement, Nicolas, ça fait quand même peur.
Oui, mais pas autant que la disparition de la famille Gruber. On est au début 20e, une famille est retrouvée massacrée à Hinterkaifeck en Allemagne. Or, l'enquêteur chargé de l'affaire se rend compte en collectionnant les indices que le meurtrier a vécu dans la maison après les meurtres. Et en interrogeant le voisinage, il apprend que le patriarche de la famille soupçonnait quelqu'un ou quelque chose d'habiter chez lui, caché. Par exemple, un jour, il était tombé sur des traces de pas dans la neige qui se dirigeaient vers sa maison, mais aucune trace qui en repartait. Jérémy Fell s'est inspiré de la réalité pour cette histoire.
Alors, Hinterkaifeck, c'est un fait divers. Le chapitre se découpe en 2 parties. La première partie, je raconte les faits, donc je raconte vraiment la réalité. Et effectivement, en 1920, toute une famille était retrouvée morte. Et moi, ce qui m'a fasciné dans ces histoires, c'était parce que j'avais lu un article sur les légendes urbaines. Je suis fasciné par les légendes urbaines et raconter l'histoire d'une famille qui a été tuée par quelqu'un qui a vécu chez eux à leurs dépens. Voilà, et donc ça m'a terrifié d'imaginer que le tueur avait pu vivre dans leur maison sans qu'ils se rendent compte qu'il les avait tués. Et pourquoi il les avait tués ? On n'a jamais trouvé le coupable. Et moi, j'ai eu l'envie, par les armes de l'imaginaire, en prenant tous les éléments de la réalité, de les transporter dans l'imaginaire et d'imaginer, moi, un coupable, évidemment, une histoire qui tienne en prenant ce fait divers comme point de départ.
Il n'y a pas que des histoires vraies, si, Nicolas ?
Non, c'est d'abord de la fiction, mais qui est parfois mêlée à la réalité. Il y a aussi une histoire terrible sous la dictature de Pinochet. Je vous les raconte pas toutes, mais puisque c'est la saison, une sorte de conte de Noël aussi. À la Jérémy Fell, c'est l'histoire d'un petit garçon. On comprend qu'il a été adopté, c'est Noël, et il décide de se cacher dans le salon dans la nuit du 24 au 25 pour attendre le Père Noël. Il a un secret à lui confier en plus. Alors il attend, et soudain, effectivement, le Père Noël débarque. Mais c'est étrange, il ne ressemble pas vraiment à l'idée qu'il s'en faisait. Et puis tiens, il n'y a pas de reine, il n'y a pas de traîneau, et surtout, il n'est pas entré par la cheminée. Je vous laisse tranquillement imaginer où vous procurez le livre. Chaque histoire en amène une autre. À chaque fois, on se dit qu'on ne pourra pas y entrer aussi profondément que dans la précédente. Et puis si, beaucoup de talent, ce Jérémy Fell.
Et ce Jérémy Fell qui signe donc Nous sommes les chasseurs chez Rivage. Merci beaucoup Nicolas Carreau.
Europe Matin, Omblin Roche et Julien Pierce.
5h56, nous sommes le mardi 7 décembre. Dans un instant, la météo, le journal et une question.
À quoi joue Vladimir Poutine? Ce n'est pas la première fois que l'on se pose cette question, ni probablement la dernière, mais il faut dire que cette fois, le président russe y va fort. 7 ans après l'annexion de la Crimée, plus de 100 000 soldats sont massés à la frontière ukrainienne. Les images satellites montrent également des chars, des avions de combat, bref, tout le nécessaire pour une invasion express. C'est ce que redoutent effectivement les États-Unis, dont le président Joe Biden doit s'entretenir aujourd'hui avec Vladimir Poutine. Alors à quoi joue l'hôte du Kremlin? Eh bien on posera cette question dans une dizaine de minutes au géopolitologue et spécialiste de la Russie, Cyril Brett. On écoutera ensuite, Omblin, votre partition.
Un Britannique, francophile, oui, il y en a plein. Murray Head, installé à Paris et depuis 25 ans, son tube absolu et transgénérationnel, Say It So, Joe, on y revient dans 20 minutes.
Et avant, Anissa Haddadi pour la météo. Temps calme ce matin avant l'arrivée de la pluie?
Oui, c'est vrai que la perturbation qui a traversé le pays hier, est en train de nous quitter par l'Allemagne et la Suisse. Donc ce matin, nous avons encore, quand on regarde le radar de près, des petites pluies sur la Loire, l'Alsace, sur Saint-Étienne, Lyon, Chalon-sur-Saône, Saint-Claude dans le Jura, Morteau, Mulhouse. Voilà, là on a des petites averses. Si vous êtes dans ce secteur, pensez aux parapluies ce matin. Partout ailleurs, on a un temps sec mais très brumeux. Et puis ce matin, sur la pointe bretonne, là on voit la pluie qui est en train de revenir. Et bien justement, cette pluie, elle annonce l'arrivée d'une nouvelle perturbation pour cet après-midi. Alors attention toute la journée tout de même aux gros coups de vent. Le vent souffle fort des Hauts-de-France à la Normandie, en passant par le Cotentin, la Bretagne, la Vendée. Le vent se renforce cet après-midi avec des rafales jusqu'à 110 km/h, des coefficients de marée importants jusqu'à 90. Et puis sur toute la moitié ouest, cet après-midi, c'est de l'eau, de la pluie pour tout le monde, avec par endroits même des pluies soutenues, en particulier sur le Cotentin et la Gironde. Alors les températures, on a moins 2 degrés à Gap ce matin. Les endroits où le ciel est dégagé, c'est là qu'il fait le plus frais. 0 degrés à Belfort, 2 pour Ajaccio et Clermont-Ferrand, 3 degrés à Paris et au Mans, 5 à Toulouse et Lorient, 7 degrés à Cherbourg et 9 à La Rochelle. Alors cet après-midi, ça reste frais pour la saison, mais ça sera douci par rapport à ce qu'on a connu la semaine dernière. Donc on a 9 degrés à Paris, 11 à Clermont-Ferrand et 14 pour Marseille.
Merci beaucoup Anissa Haddadi. Vous écoutez Europe 1, très bon réveil à tous. Nous sommes le mardi 7 décembre. Il est 6h. La France échappe au couvre-feu et au confinement, des mesures jugées disproportionnées hier soir par Jean Castex, qui mise davantage sur la vaccination. Dans les centres, le rythme des injections s'intensifie. Reportage à Lyon dès le début de ce journal. C'est l'appel au secours d'une profession. Les magistrats sont reçus aujourd'hui par le Conseil supérieur de la magistrature. En France, le budget consacré à la justice reste inférieur à la moyenne européenne. Et puis, vous en êtes où dans vos cadeaux de Noël? Attention au délai de livraison si vous commandez en ligne. Face aux tensions d'approvisionnement, comment s'organise la logistique? Réponse à la fin de ce journal.
Europe Matin, Omblin Roche et Julien Pierce.
Un journal de 6h qui vous est présenté par Roman Hockey. Bonjour Roman.
Bonjour à tous. Pas de restrictions mais des incitations. C'est le pari de l'exécutif face à la cinquième vague de Covid. Incitation à lever le pied sur les interactions sociales. Incitation à passer par la case vaccination avant Noël. Les plus de 65 ans pourront même se rendre dans n'importe quel centre et sans rendez-vous pour leur rappel. 340 000 injections par jour en France, dont 10% de première dose. Les vaccinodromes ont donc repris du service. À Lyon, le reportage de notre correspondant Jean-Luc Boujon.
Ici, au centre de vaccination de Gerland, on avait perdu l'habitude des files d'attente et des salles bondées. Mais hier, tout est redevenu comme avant, comme en mars ou avril dernier. Au moment des toutes premières doses, Adil, infirmier libéral, sent bien la différence.
Il y a du monde au vide. J'ai vu du coup juste les parkings étaient pleins. Et puis de ce qu'on voit du coup dans la salle, il y a beaucoup de monde. Donc ouais. Ça ne va pas arrêter aujourd'hui.
Car depuis hier, le vaccinodrome de Gerland a repris en mode intensif. 8h-20h tous les jours, 6 jours sur 7. L'objectif, c'est 2000 injections par jour, explique la responsable du centre, le docteur Jeanne Fatoum.
On double, voire même en triple les créneaux de vaccination. C'est plus d'infirmières libérales, plus de médecins, plus d'agents administratifs. On est autour de 75 personnes mobilisées pour pouvoir vacciner 2000 personnes par jour.
Fatima, touchée par le Covid il y a quelques mois, fait partie de ceux qui se sont précipités pour recevoir leur rappel.
J'attendais avec impatience de le faire parce que j'ai galéré. J'ai vraiment eu un Covid très difficile. Et en fait, dès que j'ai eu l'occasion, je me suis dit plus jamais ça. Donc voilà, nous on encourage tout le monde à se faire vacciner. C'est la seule solution pour que tout le monde s'en sorte.
Et à Lyon, un nouveau centre de vaccination devrait ouvrir ses portes très prochainement dans le centre commercial de la Part-Dieu. Lyon, Jean-Luc Bougeon, Europe 1.
Et après les adultes, bientôt les enfants. Pour les 5-11 ans atteints par exemple de diabète, d'asthme ou d'obésité, la vaccination sera ouverte dès la semaine prochaine, le 15 décembre. 360 000 enfants sont concernés.
Le président de la Conférence des évêques de France, décoré de la Légion d'honneur hier soir.
Éric de Moulin-Beaufort a reçu la médaille des mains de Gérald Darmanin. La Conférence des évêques fait partie des instances qui ont commandé le rapport de Jean-Marc Sauvé sur la pédophilie dans l'Église. Un rapport qu'il faut interpréter avec prudence, a averti hier le pape François.
Une déclaration du souverain pontife dans l'avion entre Athènes et Rome. Il est aussi revenu sur la démission éclair du Monseigneur Aupetit, un départ validé par le pape après des soupçons autour de la vie amoureuse de l'archevêque de Paris.
Quand les ragots grandissent et emportent la réputation d'une personne, cet homme ne pourra pas gouverner parce qu'il a perdu sa réputation. Un homme dont la réputation a été atteinte si publiquement ne peut pas gouverner. Et ceci est une injustice. C'est pourquoi j'ai accepté la démission d'Aupetit, non pas sur l'autel de la vérité, mais sur l'autel de l'hypocrisie.
Et en attendant la nomination d'un successeur, c'est Monseigneur Georges Pontier, ancien archevêque de Marseille, qui assure l'intérim du diocèse de Paris.
15 magistrats pour 100 000 habitants en France, c'est moitié moins que la moyenne européenne.
Un chiffre qui illustre à lui seul le malaise d'une profession, épuisement, perte de sens, une souffrance consignée dans une tribune du journal Le Monde, un texte signé par les deux tiers des magistrats français. Ils ont rendez-vous cet après-midi au Conseil supérieur de la magistrature. David Montagnier, ces magistrats seront reçus par le président du CSM, François Molins.
Oui, une nouvelle mission pour celui qui dirige désormais l'organe de contrôle des magistrats en France. Il va devoir entendre la grogne des juges qui gagnent du terrain. Éric Dupond-Moretti les a déjà reçus pendant plus de 3 heures, mais sans véritable résultat. En plein état général de la justice, les magistrats ne souhaitent plus jouer le jeu du gouvernement. Malgré une hausse budgétaire de 8%, cela ne suffit pas à combler le retard accumulé. La France reste toujours sous la moyenne des pays du Conseil de l'Europe, 65 euros par habitant dépensés contre 131 pour l'Allemagne ou 92 pour l'Espagne. Les difficultés ne sont pas nouvelles. Déjà en 2016, le garde des Sceaux de l'époque, Jean-Jacques Urvoas, avait parlé de clochardisation de la justice. Depuis, le malaise est encore plus grand chez les juges. Pénurie de matériel, d'effectifs, audiences nocturnes, dossiers en souffrance. Dans les tribunaux, des motions sont votées à l'unanimité, comme à la Cour d'appel de Paris, pour dénoncer, je cite, la désespérance des magistrats. La profession est aujourd'hui à bout, à tel point, et c'est rare, que des manifestations sont prévues le 15 décembre prochain.
David Montagnier du service politique d'Europe 1.
17 jours, 408 heures avant le réveillon de Noël, voilà qui est précis. Il est donc plus que temps de réfléchir aux cadeaux.
Je vois que vous comptez vraiment précisément. Ah oui, oui. Julien, vous attendez ça avec impatience. Eh bien, si vous commandez en ligne, attention au délai de livraison. Les pénuries touchent de plus en plus de secteurs avec donc des tensions d'approvisionnement. Élise Dangean, est-ce que la logistique va pouvoir suivre ?
Eh bien, la bonne nouvelle, c'est que cette situation, tous l'ont vu venir et l'ont anticipée. Les approvisionnements et les recrutements ont été déclenchés très tôt. On commence à préparer Noël le 1er janvier, explique Amazon, qui double ses effectifs pour la période. Mais ce qu'il faut en plus cette année, dit Alexis Degouy, c'est de l'agilité. Il est le délégué général de l'Union des entreprises de transport et de logistique de France.
Quand vous devez réceptionner un conteneur dans un port français et puis que finalement il arrive aux Pays-Bas ou en Allemagne, bah vous devez aller chercher. Donc forcément, vous changez vos plans de transport, vous changez vos plans logistiques pour pouvoir être sûr de réceptionner la marchandise.
Autre enjeu, le stockage. Cette année, le groupe FM Logistique ajoute 5 entrepôts supplémentaires juste pour Noël. Une nécessité pour son président Jean-Christophe Maché.
Ça nous amène à mettre des dispositifs, par exemple, en ayant des entrepôts plus proches des villes. C'est-à-dire que il faut qu'on ramène le stock le plus proche possible du consommateur.
En amont de la chaîne aussi, on s'active. Le groupe CMA-CGM a ajouté 9 bateaux à sa flotte depuis la rentrée. D'autres sont en train d'arriver. Il a également ajouté des escales pour pouvoir désengorger les ports excédentaires.
Élise Dangean du service économie d'Europe 1. Et puis si vous ne savez pas quoi offrir à votre cousin ou à votre grand-tante pour Noël, voilà une idée. Le film Get Out vient d'être désigné meilleur film de l'année du 21e siècle, je vais y arriver, par le syndicat des scénaristes américain, l'histoire d'un couple mixte, rose et blanche, Chris est noir et doit rencontrer ses beaux-parents. Et l'atmosphère se tend à cause des origines du jeune homme qui va très vite découvrir l'inimaginable à propos de sa belle famille. Suspense. Alors, c'est pas trop film de Noël, hein, c'est quand même interdit aux moins de 12 ans.
Mais voilà. C'est un super film.
Jordan Peele, oh, extraordinaire, Galate.
Voilà, excellent. Tu ne l'as pas vu, mais ça me donne envie de le voir.
Super film et un super journal signé Roman Hockey. Merci Roman.
On passe au sport à 6h06.
Passionné de sport, toute l'actu pour bien parier sur Europe 1 avec Winamax. Jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
Le journal des sports de Martin Lange avec la dernière journée de la phase de groupe de la Ligue des Champions qui débute ce soir.
Oui, c'est pas facile à dire. Mais le PSG qui reçoit Bruges, hein, les Parisiens déjà qualifiés et certains de finir derrière Manchester City n'ont plus grand-chose à jouer. Mais après avoir enchaîné les prestations indigentes ces dernières semaines, ils espèrent se relancer. Le défenseur Achraf Hakimi réclame en tout cas un peu de patience. Écoutez.
Les gens critiquent toujours que l'on joue bien ou que l'on joue mal. Ils trouveront quelque chose à dire. On respecte ces critiques, mais il faut comprendre qu'il y a beaucoup de nouveaux joueurs. Il faut essayer d'abord de bien s'entendre entre nous et ensuite suivre l'idée de l'entraîneur et la mettre en pratique. Cela exige un certain temps, il faut être patient. Petit à petit, le jeu va s'améliorer, les gens pourront prendre du plaisir et nous aussi.
Coup d'envoi de PSG Bruges à 21h ce soir, à suivre également l'issue du groupe B qui de Porto, du Milan AC ou de l'Atlético Madrid rejoindra Liverpool en 8e de finale. Réponse vers 23h. En Ligue 1, Saint-Etienne ne connaît pas encore le nom de son nouveau coach, mais c'est l'ancien joueur Julien Sablé qui assurera l'intérim.
Handball à présent Martin et des Bleus qui terminent elles aussi leur tour préliminaire.
Oui, les joueuses de l'équipe de France affrontent le Monténégro ce soir, match sans enjeu puisque les Bleus sont déjà qualifiés pour le tour principal, mais pas sans un terrain. Il faut gagner pour faire le plein de confiance et de points avant les gros matchs.
Et puis il y a du basket aussi ce soir.
Oui, avec le nouveau classique du championnat de France, Monaco reçoit l'ASVEL, les deux clubs français qualifiés en Euroleague. Deuxième confrontation de la saison et pour l'instant c'est l'ASVEL qui mène 1-0.
Deux infos en bref pour terminer Martin.
Du hockey sur glace avec le premier quart de finale de Ligue des Champions d'un club français. Ce soir, Rouen affronte les Finlandais de Tampere. Et puis de la voile, le vainqueur du Vendée Globe, Yannick Bestaven, a été élu marin de l'année hier. Il a par ailleurs été décoré de la Légion d'honneur par le président Macron.
Merci Martin, c'était le journal des sports de Martin Lange.
Restez avec nous dans un instant, un éclairage sur ce qui se passe actuellement aux portes de l'Europe. Plus de 100 000 soldats russes massés à la frontière ukrainienne. Une invasion est-elle imminente? Réponse dans 2 minutes sur Europe 1. A tout de suite.
5h, 6h30.
Europe Matin.
Bon début de matinée, il est 6h11 sur Europe 1. Votre invité Julien est géopolitologue et maître de conférences à Sciences Po.
Et grand spécialiste de la Russie. Bonjour Cyril Brett.
Bonjour.
Merci d'être en direct avec nous ce matin. Le président américain Joe Biden et son homologue russe Vladimir Poutine vont échanger aujourd'hui en visioconférence. Et au menu de ces discussions, il y a l'Ukraine. Car pour la deuxième fois de l'année et 7 ans après l'annexion de la Crimée, Moscou est en train de masser plus de 100 000 soldats à la frontière, comme si une invasion était imminente. À quoi joue Vladimir Poutine ?
À tester la solidarité des Occidentaux autour de l'Ukraine et à rappeler que l'adhésion potentielle de l'Ukraine à l'OTAN est une ligne rouge pour lui, juste avant son entretien avec le président Biden.
Ce n'est pas du bluff ?
C'est tout à la fois des manœuvres extrêmement réelles et une invasion qui est peu probable. Il s'agit de manœuvres qui sont réalisées sur le territoire de la Fédération de Russie, donc apparemment c'est normal, mais le tempo est absolument préoccupant puisque la moindre provocation, le moindre prétexte sur le territoire ukrainien peut servir de justification pour une pénétration de troupes russes dans l'est de l'Ukraine qui est déstabilisée, vous l'avez rappelé, depuis 2014.
Et puis l'histoire regorge de conflits qui ont débuté par erreur. Donc les Russes n'ont a priori pas l'intention de faire la guerre, mais le risque de guerre, lui, est bien réel, avec autant de forces dans un si petit périmètre.
Il est bien réel et les forces séparatistes pro-russes sur le terrain ne sont pas directement et intégralement contrôlées. Donc on n'est jamais à l'abri d'un incident, d'un tir, d'une initiative sur le terrain qui nécessiterait de la part de la Russie une intervention ou qui paraîtrait nécessiter de la part de la Russie une intervention pour ne pas perdre la face ou pour ne pas perdre le rapport de force.
Oui, parce qu'on rappelle que la guerre débutée en 2014 avec l'annexion de la Crimée n'est pas terminée dans le Donbass, région séparatiste où les combats sont quotidiens. D'ailleurs, le président ukrainien Zelensky s'est rendu hier dans les tranchées avec tout l'attirail pour en découdre.
Et oui, c'est encore un champ de bataille ouvert, actif, régulièrement rallumé, qui est sur le territoire de notre continent, comme si la guerre ne voulait pas le quitter.
Pourquoi est-ce que Vladimir Poutine met à ce point cette pression ? C'est juste au sujet de l'OTAN dont vous nous avez parlé en introduction de cette interview ?
Au sujet de l'OTAN, au sujet de l'Union européenne, au sujet également des prises de position de la nouvelle administration, enfin l'administration Biden, disons, qui est beaucoup plus dure que la précédente envers la Russie. Et puis, pour la Russie, c'est une question existentielle. Avec la fin de l'URSS, il y a maintenant 30 ans, la Russie est dépourvue de son espèce de glacis, de bastion qui la défendait à l'Ouest. Aujourd'hui, l'Ukraine est comme le ventre mou et le pays dans lequel sont présents directement des forces militaires américaines et un soutien militaire européen. Quand on est dans l'est de l'Ukraine, on est à un jet de pierre de Moscou et donc Moscou ne peut que considérer que c'est une menace pour lui.
Donc Moscou considère l'Ukraine comme son précaré.
En tout cas, comme la zone d'où viendra la prochaine menace ou le risque stratégique majeur.
Quelle est la position de Joe Biden ? Parce qu'il ne s'est jamais réellement exprimé sur ce dossier, en tout cas sur cet amoncellement de soldats à la frontière ukrainienne. Et à vrai dire, on le sent plus intéressé par ce qui se passe du côté de la Chine. Est-ce que je me trompe ?
Non, vous avez parfaitement raison. Et c'est dans toutes ces déclarations. Le grand rival géopolitique des États-Unis, ce n'est plus la Russie, c'est la Chine. D'ailleurs, les États-Unis viennent de le rappeler cette nuit en boycottant au niveau diplomatique les prochains Jeux olympiques d'hiver à Pékin. La Russie est d'importance, mais d'importance secondaire dans la stratégie et du candidat, puis du président Biden. C'est un problème local avec lequel on doit traiter à un niveau local.
Alors on ne le souhaite pas, évidemment, mais si un conflit venait à se déclarer, est-ce qu'à défaut de pouvoir retenir l'armée russe, les Ukrainiens ont les moyens de faire chèrement payer l'invasion de leur pays ?
Oui, depuis 2014, l'État ukrainien a reconstitué des forces économiques, grâce au soutien financier d'ailleurs des Européens, et des forces diplomatiques. Le réseau d'alliances ukrainiennes est beaucoup plus solide maintenant. On le voit avec l'intérêt que les Européens, les Américains portent au destin de l'Ukraine, et des forces militaires. Les forces militaires ukrainiennes ont été modernisées, encore une fois grâce au soutien des Occidentaux, non seulement au niveau des équipements, mais également au niveau des entraînements et des modes opératoires. Vous l'avez rappelé, c'est un champ de bataille, et sur ce champ de bataille, les deux parties se sont entraînées, se sont formées. Effectivement, c'est ce qui fait redouter que la moindre étincelle pourra dégénérer en brasier et en véritable bataille à proprement parler.
Alors on parle des Russes, on parle des États-Unis, mais où est l'Europe dans tout ça ? Parce que l'Ukraine, jusqu'à preuve du contraire, c'est en Europe ?
L'Europe, elle est partout. Elle a renouvelé constamment des sanctions contre ceux qu'elle considère comme les fauteurs de troubles en Russie et en Ukraine. Et c'est un résultat à soi seul, parce que plusieurs États européens sont contre cette politique de sanctions. Elle est dans les finances publiques ukrainiennes. Elle tient à bout de bras les finances publiques ukrainiennes directement et par l'intermédiaire du FMI. Et puis, elle est dans le soutien constamment renouvelé du couple franco-allemand à la souveraineté ukrainienne. Et là encore, à travers les vicissitudes de la dernière décennie, c'est un résultat qui est très important. Les États-Unis sont peut-être les soutiens les plus visibles de l'Ukraine, mais les plus efficaces sont les Européens.
Merci beaucoup Cyril Brett de nous avoir éclairé ce matin. Je donne le titre de votre dernier livre, 10 attentats qui ont changé le monde, comprendre le terrorisme au 21e siècle. C'est chez Armand Collin. Très bonne journée à vous.
Merci.
Vous restez avec nous, la partition de Murray à la suivre sur Europe 1.
Europe Matin,
Omblin Roche et Julien Pierce.
Il est 6h19 sur Europe. Un très bon réveil à tous. Voici les principaux titres de ce mardi avec Alban Le Prince.
Renforcement du protocole sanitaire à l'école, ouverture probable de la vaccination des 5-11 ans fin décembre, fermeture des discothèques pour 4 semaines. L'exécutif serre légèrement la vis à l'approche des fêtes de fin d'année face à l'aggravation de l'épidémie de Covid. Emmanuel Macron dans le Cher et l'Allier pour 2 jours. Le président poursuit son tour de France des territoires et passera par Vichy demain. Le premier président à s'y rendre depuis Valéry Giscard d'Estaing en 1978. Et on vient de l'apprendre, un effondrement d'un immeuble à Sanary dans le Var. 5 personnes sont probablement bloquées dans les décombres. Ce sont les propos des pompiers. Et puis PSG Bruges, dernier match des phases de groupe de la Ligue des Champions à suivre ce soir 18h45.
On termine avec votre partition, Omblin. Il est en tournée dans l'Hexagone en ce mois de décembre. Murray Head, le plus français des chanteurs folk britanniques.
Depuis 25 ans, Julien, ce londonien d'origine est installé à Paris et profite d'une maison dans le Béarn, francophile et totalement bilingue. La France est surtout le pays où Murray Head connaît le plus de succès depuis le début de sa carrière.
Murray Head est un enfant de la balle.
Avec une mère comédienne, un père réalisateur de documentaires et un frère acteur, Anthony Stewart Head, que les fans de la série télé Buffy contre les vampires connaissent bien. La voix, V-O-I-E, qui le mène vers le cinéma est donc toute tracée. Murray Head fait quelques apparitions dans des films, aux côtés notamment de Jean Rochefort et Brigitte Bardot dans les années 60. En parallèle, il signe des bandes originales et enregistre ses premières chansons.
Ce va-et-vient entre cinéma et musique finit quelque peu par brouiller les pistes.
Et oui, effectivement, excepté le single One Night in Bangkok, Murray Head ne va pas connaître la joie de la reconnaissance internationale. Parlons plutôt de succès ponctuels. Il sort son premier album, passé inaperçu en 1973. Le deuxième, 2 ans plus tard, le fait sortir de l'ombre. Il a la sensation d'avoir enfin trouvé sa voix, V-O-I-X, une voix voilée, un peu rauque. Il s'adresse alors au producteur de Cat Stevens et ancien bassiste du groupe anglais de Yardbirds, Paul Samuel Smith. Say it ain't so, Joe, please, say it ain't so. That's not what I wanna hear, Joe, ain't I got a right to know.
Murray Head et son nouveau producteur travaillent sur un album qui s'apprête à être un best-seller en France.
Oui, la chanson Say It and So Joe donne son nom au disque. Elle devient l'hymne de Murray Head malgré une méprise concernant le sens des paroles. Tous imaginent un slow romantique alors que nous avons là tous les ingrédients de la chanson engagée. Murray Head raconte avoir écrit un texte politique après avoir vu un documentaire sur Richard Nixon et le scandale du Watergate. Le thème était « Peut-on encore lui faire confiance ?»
Et ça lui a fait penser à un célèbre joueur de baseball américain.
Shoeless Joe Jackson de l'équipe des White Sox, banni après une finale truquée en 1919, un supporter lui aurait lancé « Dis que c'est pas vrai, Joe ». We're gonna get burned. Yes, we're gonna get drunk. We're gonna get burned. We're gonna get burned. Yes, we're gonna get burned. Say it ain't so, Joe, please, say it ain't so. une chanson pour dénoncer la corruption, Say It and So Joe de Murrayhead. C'est également le nom de son album de 1975 qui est au centre d'une nouvelle tournée. Murrayhead sera demain soir à l'Olympia à Paris et vendredi à la Luciole à Alençon dans l'Orne.
Merci beaucoup Ombline. Votre matinée se poursuit dans un instant avec Dimitri Pavlenko et Anissa Haddadi pour la météo.
Europe Matin. Il est 6h27, l'heure de vous donner rendez-vous demain.
Et on vous attend dès 5h avec le sourire, sourire que l'on garde pour accueillir Dimitri Pavlenko. Bonjour Dimitri.
Bonjour Julien, bonjour Ombline.
Bonjour.